au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Quand on reçoit un livre intitulé « Passion de la langue française », on pense immédiatement, voilà un ouvrage qui ne saurait échapper à Canal Académie. Et quand en l'ouvrant, on découvre qu'il est dédicacé à François Tcheng de l'Académie française, c'est une raison de plus pour vous le présenter. Et enfin, quand on s'aperçoit que l'auteur Gérard de Cortance est membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, on se décide à l'inviter, car c'est toujours un plaisir pour nous de mentionner ce pays, voisin et ami de la France. Monsieur de Cortance, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'à nous. Je devrais dire aussi qu'on devrait vous inviter parce que vous êtes un écrivain, vous avez publié énormément d'ouvrages, de romans notamment, mais aussi des biographies, enfin plein de choses. Et là, vous venez donc de publier ce livre aux éditions Des Clés de Brouwer, Passion de la langue française. Et je suis un peu intimidée de vous interviewer parce que je sais que vous avez une idée de l'interview très précise. L'interview doit apprendre des choses au lecteur et à l'auditeur en lui faisant plaisir. Alors, on va se faire plaisir, j'espère. Alors, à ces trois raisons que je viens d'énoncer, je voudrais en ajouter une quatrième. Votre livre offre au lecteur 33 textes en tout. Donc 33 auteurs, parmi lesquels j'ai compté 10 membres de l'Académie française, ce qui paraît somme toute assez normal quand on parle de la langue française, à commencer par Vaugelas, et un membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Ferdinand Bruno, ce qui représente donc un tiers des auteurs choisis. Alors est-ce que c'est exprès que vous avez choisi des académiciens pour nous faire plaisir, je suppose?
Non, ce n'est pas exprès. À l'origine, je voulais écrire, ça fait très très longtemps que j'avais ce projet, d'écrire un essai dans lequel je témoignerai de mon amour pour la langue française. Vous savez, je suis fils d'émigrés italiens, napolitain du côté de ma mère et piémontais du côté de mon père, et aussi bien d'ailleurs pour mes grands-parents que pour mes parents, l'intégration passait par l'acquisition du langage du pays qui nous accueillait, à savoir la France. Et donc très très vite, j'ai mangé du français, quoi. Un peu comme de la confiture, c'est-à-dire que enfant, j'adorais enfin la langue française, les mots, la grammaire, la syntaxe, les accords des verbes, les choses comme ça. Enfin, donc j'ai eu une attention très 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 vite portée à cela, et donc j'ai toujours eu envie d'écrire un essai. Donc je me suis enfin décidé à écrire cet essai, mais avant d'écrire l'essai, donc j'ai rassemblé des textes pour asseoir ma réflexion sur des textes qui existaient, pour voir comment cette langue avait évolué, comment on en avait parlé. Et finalement, je me suis trouvé face à une sorte d'anthologie de textes magnifiques, mais qui avaient chacun une existence propre, qui chacun vous emmenait vers un voyage en compagnie de la langue, que je me suis dit, je ne vais pas avoir l'outrecuidance d'écrire un essai, je vais laisser parler ces autres auteurs, ces autres textes. En revanche, je présenterai chacun des textes.
Voilà, vous accordez beaucoup d'importance à la présentation.
Oui, parce que disons que
l'essai,
voilà,
oui.
En quelque sorte, l'essai, c'est-à-dire le regard que je peux avoir sur la langue française, il est plutôt, bien évidemment, dans le choix des textes, dans la façon dont le livre est structuré, mais aussi dans la façon de présenter ces auteurs et ces extraits.
Oui, c'est important. Vous parlez justement de la structure du livre. Vous avez conçu un ordre, c'est-à-dire des chapitres. Alors, ça commence par l'histoire, donc les auteurs qui ont positionné la langue française. Évidemment, le tout premier, c'est Joachim du Bellay. Après, il y a Étienne Pasquier, Henri Estienne, Rivarol, bon, et Vaugelas, notre cher Vaugelas. Après, ceux qui ont parlé du style. Et là, on voit Paul Valéry et bien sûr Gabriel de Breuil, notre chancelier de l'Institut de France. Ceux qui ont conçu la langue comme un combat, là, c'est plutôt Maurice Druon et Jean Dutour, Hélène Garard-Dancos aussi. Et puis ceux qui ont parlé de la langue française et l'âme d'un peuple, sa vie par sa langue, effectivement. Là, il y a beaucoup de personnes. Et puis la francophonie, qu'on ne saurait oublier, bien sûr, surtout quand on est comme vous, académicien d'une académie de Belgique. Alors, tous ces passages, vous avez organisé cela comment, justement, avec ces structures-là? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer?
Je voulais commencer par l'histoire et finir, au fond, une sorte d'ouverture par ce qu'on appelle la francophonie, qui, enfin, vous le savez, peut-être même mieux que moi. Enfin, à l'origine, hein, c'est né en 1880-84. C'était une sorte de concept qui était lié à la colonisation. C'est après que c'est devenu autre chose. La création des alliances françaises, par exemple, c'est intéressant parce que dans le comité directorial des alliances françaises à la fin du 19e, on trouvait Renan, Hugo, Ferdinand de Lesseps. Et le concept de francophonie bouge, commence à bouger dans les années 60 et notamment devient autre chose, et notamment avec Léopold Sédar Senghor. Donc ça, c'est l'ouverture avec Chamoiseau, François Tcheng, enfin, on en reparlera. Mais donc le point de départ, c'est plutôt l'histoire. C'est-à-dire à quel moment on décide que la langue d'un pays qui s'appelle la France va être le français. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne le dit pas assez, à mon sens. Comment dire, c'est un acquis de la Révolution française. C'est-à-dire que les révolutionnaires pensaient que l'unité de la nation, la liberté et l'égalité passeraient par une langue commune. Ça, c'est très intéressant, d'ailleurs, par rapport à tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de breton, il n'y avait plus d'auvergnat. Voilà, il y avait une langue française qui existait, qui rassemblait. Et la personne qui est à l'origine, au fond, de cet élan vers une langue commune, c'est l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, au fond, comment dire, c'est son désir, ne s'établit pas tout de suite, ne se construit pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu de temps. Quand on s'aperçoit qu'il faut attendre Guizot, et puis la Troisième République, et puis finalement, c'est surtout Jules Ferry. Et Jules Ferry, qu'est-ce qu'il va faire? C'est simple, au fond. On a le choix à ce moment-là. On a le choix entre l'unité qui se fait autour d'une langue française qui serait phonétique, ou alors d'une langue française qui serait plutôt, comment dire, écrite. Et on choisit la langue écrite. Donc c'est fin 19e, début 20e, c'est l'essor de la dictée qu'on reproche tant aujourd'hui, mais qui est une chose merveilleuse,
dictée. Oui, qui a été si pratique pour apprendre l'orthographe, voilà. Justement.
Donc, si vous voulez, je voulais resituer ça un peu dans le temps, avec des choses assez, moi, qui sont intéressantes, avec les grands débats, savoir est-ce qu'on doit laisser l'espèce d'empreinte du latin ou pas. Certains pensaient qu'au XVIe siècle, fin XVIe, début XVIIe, qu'il y avait une imprégnation trop grande de l'italien, qui commençait peut-être à manger la langue française. C'est intéressant de resituer ces...
Alors, au fond, c'est très actuel.
Oui, de
les questions sont toujours les mêmes.
Mais bien sûr, voilà. Je trouvais que c'était important de commencer par cela.
Et de dire que la réflexion ne date pas d'hier, effectivement, et qu'il faut la resituer dans tout son ensemble,
oui,
historique.
Mais bien sûr, avec, je trouve, cette espèce de paradoxe, enfin, je trouve fondamental, c'est-à-dire quand on crée l'Académie française, donc en 1634,
oui.
Richelieu, on dit, voilà, il y a une langue française qui est là, on va l'enrichir, mais on va en même temps... On va la cadrer. Et puis finalement, bon, cette langue qui est héritée de la langue de cour, qui est parlée par très très peu de monde, finalement va se développer. On arrive à ce paradoxe aujourd'hui où finalement, la langue française est parlée peut-être mieux, mais certainement en plus grand nombre, à l'extérieur de la France. C'est-à-dire que la francophonie plus importante que
en
les
nombre,
Français
sûrement.
De France.
En nombre et en espace géographique, sûrement.
Voilà. Donc ça, c'est cette grande histoire qui m'intéresse, un espèce de grand roman. J'aurais pu appeler le livre le roman de la langue. Hein.
Donc vous expliquez là votre désir de regrouper ces auteurs. Tous ces auteurs, au fond, vous les qualifiez dans votre introduction des fous de français. Ce sont des passionnés de la langue française, tous ces gens.
Ah oui, vous savez, il y a un livre célèbre qui a été publié en 1970, qui s'appelle « Les fous de Dieu ». Et je trouve, j'aime bien l'idée, je sais que je ne me fais pas beaucoup d'amis quand je parle de cette façon-là, mais bon, écoutez, je suis fils d'aristocrate piémontais et de bandit napolitain, donc je peux me permettre pas mal de choses, et j'aime bien l'idée d'être fou de la langue. J'aime bien l'idée d'Yves Berger qui disait, au fond, il faut défiler pour la langue française.
Voilà, et alors vous avez aussi, vous revendiquez aussi, il faut qu'on fasse pour la langue française des rêves d'absolu. C'est une jolie formule, ça.
Ah oui, bah oui, il faut viser haut, il faut viser très haut, il faut battre le record du monde de soi à la perche. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas se fixer des petites montagnes à franchir des collines. Non, non, il faut grimper au sommet de l'Everest, bien entendu. Plus on visera haut, plus la langue française se maintiendra, sera belle et sera puissante, bien sûr, mais oui.
Mais ce n'est pas ici qu'on va dire le contraire. Alors, j'avais sélectionné parmi tous ces beaux textes, c'est peut-être parce que j'étais en train de relire justement comment Renan a aussi travaillé sur le passage du grec au latin et au français. Donc,
absolument,
c'est un gros livre qu'on présentera sur Canal Académie un jour prochain. Et voilà que Renan, dans ses feuilles détachées, dit, enfin ce qu'il écrit, si vous permettez, je vais le lire, et qu'on n'objecte pas que le français est une langue aristocratique d'une culture trop raffinée pour le barbare, une dentelle plutôt qu'une toile de ménage. Oh, n'importe, messieurs, je dirais même tant mieux. Les choses populaires sont presque toutes des choses fortes aristocratiques. Il ne faut jamais servir au peuple que du très noble. Le latin, la langue qui a conquis le plus de barbares, est la langue des poètes, infiniment délicats, presque décadents, comme on dit aujourd'hui. En fait de langue, il faut le nombre, tout compte, et pour que quelques-uns parlent bien, il faut que beaucoup parlent mal. Vive les barbares, messieurs, c'est par eux qu'on dure et se continue. Je crois que c'était dans son discours de réception à l'Académie française, justement. Et donc, voilà, Renan a réussi à concilier ceux qui parlent mal le français avec ceux qui le parlent bien. On espère quand même que le progrès ira plutôt dans le sens de le mieux parler. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, n'est-ce pas ? On voit bien qu'il y a des langues, même qui parlent tous français, mais on ne se comprend plus. D'abord, il y a des langues techniques où on ne se comprend plus. Et puis, il y a des langues dans certaines régions, ça parle français soi-disant, mais on ne se comprend pas.
C'est-à-dire que le danger, c'est l'éclatement, le repli sur les communautarismes. Alors les communautarismes, ça peut être des communautarismes, comment dire, des êtres qui se rassemblent, mais ça peut être aussi un communautarisme, je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça, mais qui est lié à la technique en quelque sorte. Hein. Comme vous dites, il y a des langues qui, si vous ne faites pas partie, par exemple, de la communauté des gens dont Internet est le pain quotidien, c'est vrai que vous ne comprenez pas ce qu'ils racontent.
Absolument.
Il faut décrypter. Si vous n'appartenez pas à telle communauté d'êtres, comment dire, pratiquant telle religion, ayant tel passé culturel, vous ne comprenez pas la langue qu'ils utilisent. Donc là, d'ailleurs, je ne fais pas de choix de valeur entre l'un ou l'autre. Hein. Je constate juste quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, l'élan vers une intégration comme ça, une langue commune qui permettrait à tous de se comprendre, mais au-delà de se comprendre, de vivre ensemble, ce qui est plus important encore, ça, ce sont des choses qui sont peut-être en train de disparaître. Et c'est là, je trouve, le combat pour une langue française forte est nécessaire. Mais ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, l'ouverture de cette langue. Quand Chamoiseau, dans son texte, le dit assez bien, hein, Chamoiseau, au fond, il ne souhaite pas que les langues qui sont aux côtés de la langue française disparaissent.
Et d'ailleurs, elles ne disparaissent pas.
Voilà. Mais ce qu'il veut, c'est qu'au fond, que toutes ces langues existent. Mais au milieu de toutes ces langues, la langue française aussi doit exister. Ça, c'est un peu l'idée maîtresse qui est véhiculée dans le texte de Chamoiseau. Mais j'aime aussi beaucoup l'idée de Léopold César Senghor, qui est la suivante. Au fond, dit-il, quand vous entrez en langue française, hein, comme on pourrait rentrer en religion, en quelque sorte, quand vous entrez en langue française, vous entrez dans une communauté de pensée, dans un regard sur la vie, un regard sur les gens. Vous rentrez dans une universalité, vous rentrez dans un humanisme, et c'est cela que vous épousez lorsque vous épousez la langue française. Mais ça, je trouve ça une idée très belle et qui, justement...
Qui situe très haut les choses.
Oui. Ce n'est pas une question, comment dire, comme l'ont tenté de l'aborder certains journalistes récemment sur la dictée, non la dictée, la réforme de l'orthographe.
Oui,
non,
là,
c'est
on
pas
est
ça.
Dans la cuisine intérieure.
Oui, il faut situer le débat très haut. Et là, Senghor le situait très haut, et il y a nécessité absolue de continuer le projet, enfin, qui était celui de Senghor, à mon sens.
Oui, absolument. Alors, il y a aussi un texte que vous citez, qui est, je crois, un texte inédit, et je l'ai lu aussi avec intérêt parce qu'il parle de la Belgique, justement, pour vous qui êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française en Belgique, c'est important. C'est le texte de Marc Villemet, c'est d'ailleurs un de vos confrères, si
j'ai bien compris.
C'est un grammairien.
Il y a beaucoup, beaucoup de grammairiens dans l'histoire de la langue française qui sont belges. Et actuellement, à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, il y a beaucoup de grammairiens, de gens qui s'occupent de la grammaire, de la syntaxe. C'est très, très passionnant de travailler à leur côté, d'ailleurs.
Oui, alors je recommande à nos auditeurs de lire particulièrement ce chapitre-là, non seulement à nos auditeurs belges, mais aussi à nos auditeurs français, parce qu'on y apprend justement l'histoire de la pénétration de la langue française dans cette partie des Flandres, si on peut dire.
Oui. C'est important que dans ce livre sur la langue française apparaissent l'Afrique, la Belgique,
oui.
Le Canada,
le Québec.
Québec.
Oui.
Comment dire, quand la francophonie sort de la problématique de la colonisation dans les années 60 et qu'on essaie de redéfinir ce que pourrait être une francophonie moderne, les fers de lance de ce concept nouveau, ce sont des écrivains et des philosophes africains et des écrivains et des philosophes canadiens. C'est intéressant parce que ça ne part pas de France, au fond. Ça part de l'extérieur de la France.
Mais ils nous en font quelquefois le reproche. Ils disent qu'en France, on a une tendance à moins défendre la langue qu'on ne devrait le faire. C'est-à-dire qu'on s'autorise des petites...
Voilà.
imperfections. Enfin, on n'est pas aussi combatif qu'on devrait l'être.
Il y a des vrais puristes qui sont beaucoup plus radicaux, au fond, que certains d'entre nous, à l'extérieur du territoire français, et qu'on peut trouver en Afrique, au Canada ou en Belgique.
Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion de la langue française, Gérard de Cortance. C'est un livre qui est sorti aux éditions Des Clés de Brouwer, qui vient de sortir. Et alors là, bien sûr, vous y donnez des extraits de textes d'un certain nombre d'académiciens, comme j'ai dit, mais il y a aussi la bibliographie qui cite beaucoup d'académiciens, dont Orsena, par exemple, que vous n'avez pas mis en extrait, mais il y en a d'autres.
On a cité, qui est très présent. Il est très présent, comment dire, si j'ai encore quelques petites minutes. Il est présent, Éric Orsena, dans le plaisir, au fond, que j'ai essayé de faire passer dans ce petit livre. C'est-à-dire le plaisir de la langue. Éric Orsena, au fond, il dit, le message, je crois, principal d'Éric Orsena, c'est de dire aux gens, écoutez, la langue française, quand vous la parlez, quand vous la pratiquez, quand vous la lisez, quel bonheur extraordinaire. C'est ça le message. Et on le retrouve dans le texte de François Cheng.
Oui, c'est ça, c'est le plaisir. Ce sont des plaisirs qu'ils arrivent à nous faire partager, bien sûr.
François Cheng a une phrase qui est absolument merveilleuse, je trouve, quand il explique que son passage du chinois au français, indépendamment du côté religieux dont il parle beaucoup, mais la langue du chinois au français, il dit au fond, c'est extraordinaire ce que j'ai pu redéfinir le monde, c'est comme si je renaissais. Donc, tel mot désigne la lune en chinois, lorsque je passe au français, j'ai un autre mot qu'il désigne, et là je renais. Et
ça,
je
trouve ça bien. Oui.
Merveilleux. Ça, je trouve que c'est merveilleux.
Alors, puisque vous citiez aussi les grammairiens, il y en a un qu'on ne voudra pas laisser passer, c'est Gérald Antoine. Je vois là, vous citez son histoire de la langue française qu'il a fait avec Bernard Secrelini. Bon, voilà, ça fait partie aussi des grands auteurs qui, chacun avec leur talent, défendent notre langue française. Et puis, bien sûr, Jacqueline de Romilly, et bien sûr, enfin, dans la bibliographie.
Que j'ai eu comme professeur.
Que vous avez eu comme professeur.
Ah oui, c'est un souvenir émerveillé.
C'est un privilège.
Ah oui.
Merci beaucoup. J'espère qu'on vous retrouvera dans d'autres émissions sur Canal Académie. J'en suis même presque sûre, puisque je vais vous inviter à venir parler de votre collection chez Folio Gallimard, consacrée aux biographies, puisque vous dirigez cette collection. Ce sera le sujet d'une autre émission. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
À bientôt.